la 5e édition du congrès virtuel de l'EFE. Je suis Maria Hanel, votre hôtesse ce soir, et avant de commencer, je voudrais vous avertir qu'en écoutant cette conférence ou son enregistrement, vous acceptez d'être responsable de votre bien-être personnel. L'EFT est un outil à la fois simple et très puissant, dont les résultats varient naturellement d'une personne à l'autre. Les témoignages avancés lors de cette conférence ne constituent pas une garantie que vous aurez les mêmes résultats pour vous. Consultez toujours votre médecin traitant ou un spécialiste en cas de problème médical dans son domaine de compétence. Ce soir, nous sommes ensemble pour la conférence « Intérêt de l'EFT dans la prise en charge du cancer ». Nombreux sont ceux qui sont confrontés au cancer aujourd'hui, que ce soit à titre individuel ou bien dans notre famille ou nos relations. Est-ce une maladie uniquement génétique ou due au hasard, dans laquelle nous sommes des victimes impuissantes, ou bien peut-on agir sur notre environnement pour reprogrammer nos cellules? Dans cet environnement, quelle est la place du stress et plus précisément des émotions non exprimées? Est-ce un facteur secondaire ou un élément à prendre en compte dans la prise en charge globale du cancer? Pour avoir connu des cas de cancer dans sa famille, dans lesquels un stress psychologique a précédé le diagnostic de cancer, et pour avoir fait des recherches scientifiques sur le sujet, notre conférencier ce soir est très documenté sur les rémissions spontanées de cancer. Il est médecin travaillant en clinique psychiatrique à Marseille et il nous invite à discuter des dernières découvertes sur le sujet. L'épigénétique et la physique quantique peuvent-elles nous aider à comprendre l'impact de nos émotions sur la programmation de l'ADN? La libération émotionnelle peut-elle influencer jusqu'à notre ADN? Notre conférencier est également membre du conseil scientifique de l'IFPEC et de l'Alliance pour l'amélioration globale de la santé et il va partager son expérience et une stratégie d'utilisation de l'EFT dans le traitement de pathologies comme le cancer en tant que traitement complémentaire. La prévention du cancer sera également envisagée sur son versant psychologique. J'ai le grand plaisir d'accueillir Julien Drouin. Bienvenue Julien.
Bonsoir Maria.
Bonsoir, merci à toi d'être là.
Je suis très heureux de participer pour la première fois au congrès virtuel EFT et merci pour l'invitation.
Bienvenue parmi nous Julien, c'est un grand plaisir. Alors, qu'est-ce qui t'a amené à étudier ce lien entre stress psychologique et cancer?
Donc, j'y suis venu un peu par la force des choses, en fait, hein, parce qu'en mars 2013, il a été diagnostiqué un cancer du côlon et du foie à mon père. Et pour moi, à l'époque, c'était vraiment inexplicable parce qu'il ne possédait aucun facteur de risque classique du cancer du côlon. Il n'avait pas de cas dans la famille, il était sportif, il faisait attention à son alimentation et mangeait bio la plupart du temps. Donc c'était vraiment l'incompréhension. Alors je me suis mis à faire des recherches parce que le hasard, je n'y ai jamais cru. Et je me suis rappelé qu'il avait subi un stress quelques mois auparavant. Et pas n'importe quel stress, c'est un stress qui était survenu par surprise. Et devant lequel il s'était senti impuissant, et surtout c'était un stress non exprimé. Et à la même période, ma grand-tante a déclaré un cancer de la dure mère, et son mari, à quelques semaines d'intervalle, a déclaré lui aussi un cancer. Et là aussi, les facteurs de risque classiques pour ce type de cancer étaient absents. Par contre, ils avaient connu tous les deux un choc émotionnel. Donc cela devenait de plus en plus difficile pour moi d'occulter cette variable et de faire comme si cela n'existait pas.
Ça faisait beaucoup.
Ouais. Donc, très souvent, lorsque autour de moi quelqu'un déclarait un cancer et que je posais la question « Y a-t-il eu un stress non exprimé les mois précédant le diagnostic ?», la réponse était oui. Divorce, accident, conflit, etc. Alors attention, je ne suis pas en train de dire que tous les cancers sont liés au stress. Évidemment non. Il y a de nombreux facteurs à prendre en compte. Et au fur et à mesure de mes recherches, et après avoir interrogé de nombreuses personnes, je me suis rendu compte que cette question était rarement posée, et que sa prise en charge n'était pas systématique. Donc j'ai cherché une technique de psychologie qui permette de libérer les émotions non exprimées. Et j'ai rencontré Jean-Michel Guret, après avoir vu une conférence du professeur Bruce Lipton, qui est chercheur en épigénétique, et dans laquelle il parlait de nouvelles techniques de psychologie énergétique.
Oui, c'est vrai, Bruce Lipton Et prescripteur de EFT, il conseille ça pour modifier les cellules. Alors justement, qu'est-ce que tu as trouvé dans les articles scientifiques sur le lien entre le stress et le cancer?
Alors d'après une étude parue dans le Journal of Psychosomatic Research, les personnes qui n'expriment pas leurs émotions ont un risque de décès par cancer qui est augmenté de 70% par rapport à ceux qui expriment leurs émotions. Et ils ont également un risque de décès par accident cardiaque qui est augmenté de 50%. Il y a une étude française qui montre qu'il existe une association significative entre le risque de développer une tumeur maligne du cerveau et la survenue d'un événement de vie occasionnant un stress majeur dans les 5 années précédant le diagnostic de cancer. Et d'après les auteurs, un stress psychologique aigu et soudain pourrait être responsable de l'apparition de tumeurs primitives du cerveau. Il y a une étude australienne qui a montré que les femmes ayant vécu un stress majeur et qui n'avaient reçu aucun soutien émotionnel avaient 9,5 fois plus de risques d'être diagnostiquées avec un cancer du sein. Il y a aussi une étude qui a été réalisée sur 220 femmes en Inde par un chercheur de la Johns Hopkins University du Maryland aux États-Unis, et il a établi que les femmes qui ont eu un avortement ont un risque de développer un cancer du sein augmenté de 280%. Et plus le nombre d'avortements est élevé, et plus le risque augmente.
C'est énorme.
Il y a une étude de grande ampleur qui a été réalisée sur 99 000 femmes et qui a mis en évidence un lien significatif entre la survenue d'un événement de vie stressant et l'incidence du cancer du sein. Les auteurs ont constaté que le risque de cancer du sein était fortement et significativement associé à des événements de vie graves et traumatisants. Les personnes ayant connu de graves événements de vie auraient 2 fois plus de risques de développer un cancer du sein que les individus indemnes. Donc les auteurs ont constaté que l'incidence du cancer du sein était liée à la fois au caractère inattendu de l'événement, frappant par surprise, et à la sévérité de l'événement. L'incidence de tous les types de cancers, mais en particulier le cancer du sein et colorectal, est plus élevée chez les Juifs israéliens exposés à l'Holocauste par rapport à ceux qui ne l'ont pas été. Bon, j'ai donc constaté une corrélation entre les émotions non exprimées et le cancer. Mais ce n'était pas suffisant, je parle pour mon cerveau gauche. J'ai donc cherché les mécanismes biologiques pouvant expliquer ce lien, et j'ai étudié l'épigénétique et la physique quantique.
Alors, justement, pour les autres cerveaux gauches qui nous écoutent, et qui connaissent peut-être pas ces nouvelles disciplines scientifiques, est-ce que tu peux nous les décrire en quelques mots?
Oui, alors commençons par l'épigénétique. L'épigénétique, c'est l'étude des changements dans l'activité des gènes, n'impliquant pas de modification de la séquence d'ADN et pouvant être transmis lors des divisions cellulaires. Et contrairement aux mutations qui affectent la séquence d'ADN, les modifications épigénétiques sont réversibles. Important à comprendre. Donc en ce qui concerne le cancer, la chercheuse Mina Bissell de l'Université de Berkeley a démontré que des cellules tumorales, même mutées, peuvent redevenir saines si elles sont cultivées dans un environnement sain. Par exemple, lorsque des cellules tumorales sont injectées dans des souris saines, la tumeur ne se développe pas. Les gènes des cellules tumorales sont régulés par leur environnement. Les chercheurs Mintz et Immans ont également démontré que lorsque des cellules tumorales sont transplantées chez un animal sain, elles ne peuvent pas survivre et le cancer disparaît. Il y a aussi les chercheurs Lotem et Sachs qui ont publié un article en 2012 démontrant la possibilité de reprogrammer les cellules tumorales en cellules saines grâce à des modifications épigénétiques, les mutations génétiques étant toujours présentes. La reprogrammation a été réalisée avec succès sur des cellules de mélanome, de cancer de la prostate, de neuroblastome, de cancer du sein et du côlon, et encore une fois, cela malgré les anomalies génétiques. Donc, d'après les auteurs, la suppression épigénétique du caractère tumoral court-circuite les anomalies génétiques dans les cellules tumorales. Donc la programmation génétique, d'après les auteurs, est plus puissante que la programmation génétique pour déterminer la santé des cellules. Chez l'homme, le docteur Dean Ornish, du département d'urologie de l'Université de Californie, a conduit une étude en 2008 chez des patients qui étaient atteints de cancer de la prostate de bas grade. Et il a montré qu'un changement du mode de vie à lui seul permettait de modifier l'expression de 500 gènes chez ces patients. Dans cette étude, l'expression du gène protumoral RAN a été inhibée. Les changements du mode de vie consistaient à apprendre une technique de gestion du stress, à participer à un groupe de soutien psychosocial, à adopter un régime riche en fruits et légumes et pauvre en molécules d'origine animale, et à faire de l'exercice physique.
Autant de démarches relativement faciles à mettre en place, effectivement. Donc, si j'ai bien compris, les cellules tumorales mutées peuvent redevenir saines si elles évoluent dans un environnement sain. Et est-ce que tu dirais que ce sont nos émotions qui constituent notre environnement interne, enfin qui en font partie en tout cas?
Ah oui, elles en font partie.
Ouais. Alors, quelle est l'influence des émotions sur la programmation des cellules?
Nos émotions influencent la programmation des cellules par le système nerveux végétatif. Il contrôle toutes les fonctions inconscientes de l'organisme. Donc les battements cardiaques, la respiration, la digestion, la reproduction, l'immunité, important. Et retenez bien, ce système contrôle la multiplication des cellules souches. Ce système est composé de deux branches qui ont des actions biologiques opposées. Comme dans une voiture, il y a un accélérateur et un frein. Donc, la voie sympathique est activée dans les situations de stress. C'est la réponse combat ou fuite et c'est l'accélérateur. Je vous donne un exemple. Vous vous promenez en forêt et vous tombez nez à nez avec un loup enragé. Les pupilles se dilatent, la respiration et le rythme cardiaque accélèrent, la tension artérielle augmente, le sang est dirigé vers vos muscles pour passer à l'action. L'activité du système digestif, immunitaire et de la reproduction ralentissent, parce qu'évidemment, ce n'est pas le moment en face d'un loup enragé de se reproduire ou de combattre un virus. Il faut survivre avant tout. Donc cette voie est activée dans toutes les situations de stress, mais dans un but bien précis. C'est d'aider l'organisme à survivre, à surmonter la situation. La voie parasympathique, c'est le frein. Elle est activée dans les situations de repos-réparation, période pendant laquelle l'organisme récupère, répare les dégâts de la phase de combat. Alors là, les pupilles se contractent, la respiration et le rythme cardiaque ralentissent, la pression artérielle diminue, les vaisseaux périphériques se dilatent, la digestion, la reproduction et le système immunitaire fonctionnent correctement à nouveau.
Donc l'idée, c'est d'osciller entre ces deux systèmes de façon naturelle. Mais qu'est-ce qui se passe dans ce système lorsque les émotions ne sont pas exprimées, lorsque nous réprimons nos émotions?
Réprimer ces émotions active le système nerveux sympathique, c'est-à-dire qu'on appuie sur l'accélérateur.
Ça met en situation, c'est le loup interne en fait.
Exactement. Ouais. Par exemple, il y a le docteur Schuller du laboratoire d'oncologie expérimentale de l'Université du Tennessee qui a montré que l'activation de la voie sympathique stimule un réseau complexe de signaux intracellulaires qui régule la prolifération des cellules du cancer du pancréas et du poumon, ainsi que la migration et l'angiogénèse, qui est la création de nouveaux vaisseaux sanguins qui alimentent la tumeur. Et que les effets biologiques de l'activation de la voie sympathique sont accentués par la suppression simultanée de la voie parasympathique. Bon, tout le monde sait aujourd'hui que le tabagisme est un facteur de risque bien connu de tous les types de cancers du poumon. Cependant, le plus commun des cancers du poumon, le cancer du poumon non à petites cellules, se développe fréquemment chez des patients qui n'ont jamais fumé, et particulièrement chez les femmes et les Afro-Américains. Donc des facteurs de risque non liés au tabagisme chronique pourraient être en cause dans la survenue de ce cancer. Des études expérimentales récentes, in vitro et chez l'animal, ont montré que le stress chronique déclenche une hyperactivation de la voie bêta-adrénergique ou sympathique, qui stimule le développement, la croissance et l'invasion du cancer du poumon non à petites cellules. Des études cliniques récentes qui ont démontré une amélioration de la survie des patients atteints de cancer du poumon non à petites cellules et traités par bêta-bloquants. Les bêta-bloquants bloquent la voie sympathique. D'accord? Donc c'est en faveur de cette interprétation.
D'accord. Alors justement, qu'est-ce qui se passe si on arrive à libérer les émotions?
Alors si on libère les émotions, il y a activation de la voie parasympathique, c'est-à-dire qu'on appuie sur le frein, via la libération d'un neurotransmetteur dans ce type de cancer, qui est le GABA. Or, le GABA inhibe la prolifération des cellules souches saines et tumorales. Donc, d'après le docteur Schuller, maintenir l'équilibre de ce système est une clé de prévention et de traitement des cancers. et elle suggère que l'utilisation de bêta-bloquants, de GABA, ainsi qu'une psychothérapie de réduction du stress, soient des outils importants dans la prise en charge de ce type de cancer. Il a été démontré scientifiquement que l'EFT augmente le taux de GABA, qu'il active la branche parasympathique, qu'il inhibe la branche sympathique, il diminue le taux de cortisol et qu'il augmente la cohérence cardiaque. Donc l'EFT est un outil qui permet de désactiver la réponse combat ou fuite du système nerveux automatique.
Mmh. Donc l'équilibre du système nerveux automatique est très important pour contrôler la multiplication des cellules tumorales.
Oui. Et sachez que ce réglage commence très tôt. L'université de Genève a démontré que la réponse au stress est programmée épigénétiquement en fonction des soins maternels. Donc les carences affectives, la maltraitance, dérégulent la réponse au stress et donc appuient sur l'accélérateur. Je compare souvent les émotions non exprimées à de l'eau qui remplit petit à petit une carafe. Le poids de la carafe pèse sur le système nerveux automatique, comme lorsqu'on appuie sur l'accélérateur dans une voiture. Et lorsqu'on atteint une certaine pression, les cellules souches peuvent se multiplier. C'est pour cela que lors de la prise en charge du cancer en EFT, remonter dans l'enfance pour dépister et libérer les émotions toxiques qui pourraient inconsciemment déréguler le système nerveux autonome a de la valeur. Et apprendre l'EFT très tôt dans la vie, chez les enfants, dans les écoles, est aussi un très bon moyen d'éviter que la carafe se remplisse.
Oui, bien sûr. Donc le message à travers l'épigénétique, c'est qu'on peut créer un environnement défavorable au développement du cancer, donc favorable à une bonne santé. Mmh. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur ce que tu as trouvé du côté de la physique quantique ?
Oui. Alors nous avons l'habitude de penser à la réalité comme quelque chose de figé, de certain, et que nous ne pouvons pas changer. Mais comme vous allez le voir, c'est loin d'être le cas. Donc si on veut utiliser le pouvoir de l'esprit et de nos émotions dans le cancer, il est important de comprendre la vraie nature de la réalité, comment l'esprit et la matière sont reliés et comment la réalité peut changer. Lorsque les physiciens quantiques ont commencé à zoomer sur les aspects de plus en plus petits d'un atome, comme son noyau, plus ils zoomaient et moins l'atome devenait distinct et observable, jusqu'à ce que finalement il disparaisse complètement. L'atome, d'après leur conclusion, est rempli à 99,99999% d'espace vide. Mais cet espace n'est pas vraiment vide. Il est en réalité rempli d'énergie. Et plus précisément, il est composé d'une vaste gamme de fréquences énergétiques, comme des ondes, qui forment comme un champ d'information invisible et interconnecté. Donc si chaque atome est fait à 99,99999% d'énergie ou d'information, cela veut dire que notre univers connu et tout ce qui est à l'intérieur, dont notre corps physique, et peu importe à quel point cette matière nous apparaît solide, n'est essentiellement que de l'énergie et de l'information. Et Albert Einstein en avait parlé, puisqu'il disait « En ce qui concerne la matière, nous nous sommes trompés. Ce que nous avons appelé matière est de l'énergie, dont la vibration a été abaissée au point de devenir perceptible par nos sens. » Il n'y a pas de matière. Il n'y a que de l'énergie et de l'information. Alors, ce n'est pas la seule découverte bizarre réalisée par les physiciens au sujet de l'univers quantique. Ils ont aussi découvert que lorsqu'ils observaient les particules de matière subatomique, ils pouvaient changer ou modifier leur comportement. Ce n'est que lorsque l'observateur concentre son attention quelque part dans le champ d'énergie que l'électron, la matière en fait, apparaît à cet endroit. Et s'il regarde ailleurs, la particule subatomique de matière disparaît et redevient de l'énergie. Donc une autre façon de voir les choses, c'est de dire que dans le monde quantique infiniment petit, l'esprit subjectif a un effet sur la réalité objective. Donc votre état d'esprit peut devenir matière. Ce qui veut dire que nous avons tout intérêt à en tenir compte.
Oui, parce que de là à penser que nos propres pensées et nos émotions auraient une influence puisque c'est de l'énergie. Effectivement, notre corps est un champ énergétique, l'énergie de nos pensées sont donc capables d'affecter notre santé.
Ouais,
et même l'état des cellules. Mais cette énergie, Julien, comment elle est transmise, l'énergie des pensées et des émotions, comment elle est transmise, transférée dans les cellules ?
Alors, elle est transmise par la lumière, une lumière invisible. La lumière, c'est un programme qui informe les processus cellulaires. D'après le professeur Gary Schwartz, qui est professeur de psychologie, de médecine et de neurologie à l'Université d'Arizona, les pensées sont une émission de biophotons. Alors, les biophotons, ce sont des particules de lumière porteuses d'informations, codées sous forme de fréquences, qui sont émises par tous les êtres vivants, les plantes, les animaux, les êtres humains. Et chez l'homme, le fait d'orienter ses pensées vers quelque chose de précis, ce que les scientifiques appellent l'intention, produit une énergie assez puissante pour transformer la réalité physique.
Donc nos cellules communiquent entre elles avec de la lumière. Et qu'est-ce qui se passe dans le cas d'un cancer alors?
Alors le professeur Pop, qui est biophysicien à l'université de Marbourg en Allemagne, a examiné une des substances les plus cancérigènes qui soit, le benzoapyrène. Et lorsqu'il a envoyé une lumière ultraviolette sur cette substance, il a découvert qu'elle absorbait une certaine longueur d'onde, à la différence de substances inoffensives. Et après avoir étudié 37 autres substances chimiques, le professeur Pop a découvert que les substances cancérigènes absorbent la lumière ultraviolette de la même façon. Elles absorbent constamment la fréquence de 380 nanomètres. Donc, de toute évidence, cela signifie que cette fréquence est très importante pour notre santé. Le professeur Pop a aussi découvert que des cellules mortes recevant cette fréquence, ou cette onde d'énergie régénératrice de 380 nanomètres, bénéficiaient d'un remarquable effet guérisseur. Ensuite, le professeur Glenn Rain, du laboratoire de recherche de biologie quantique de Northport aux États-Unis, a fait une découverte encore plus intéressante. Un individu qui était particulièrement perturbé et dont les ondes cérébrales étaient incohérentes, a produit un changement anormal dans la lumière ultraviolette que l'ADN absorbait. Et ce changement s'est produit à une longueur d'onde de 310 nanomètres, ce qui est proche de la valeur de 380 nanomètres établie par le professeur Pop, la même fréquence qui peut provoquer le cancer lorsqu'on le brouille.
Donc, il y a un lien avec les émotions. Il y a vraiment intérêt à surveiller l'expression des émotions.
Ah oui, plutôt intérêt, oui. Ouais.
Alors, suite à ces différentes études et ton parcours personnel, je sais que tu as été amené à étudier les rémissions spontanées de cancer. Qu'est-ce que c'est une rémission spontanée de cancer et que font les patients qui vivent cette expérience?
Donc, la définition d'une rémission spontanée de cancer, c'est la disparition, complète ou incomplète, d'une maladie ou d'un cancer, sans traitement médical, ou bien avec un traitement qui est considéré comme inadéquat, pour avoir comme résultat la disparition de la maladie ou de la tumeur. Et que font ces patients? Eh bien oui, justement, ils font quelque chose. Hein, ils agissent. La rémission ne tombe pas du ciel. Et l'action qui revient très souvent est la libération des émotions non exprimées. Le docteur Bernie Siegel, qui est chirurgien et auteur du best-seller « L'amour, la médecine et les miracles », a répertorié 57 cas extrêmement bien documentés de miracles. Un miraculé du cancer est quelqu'un qui ne décède pas alors qu'il aurait dû le faire de manière certaine. Et quel a été le changement commun effectué par ces 57 patients? Eh bien, à un certain moment, ils ont tous pris la décision de libérer leurs ressentiments, leur colère et leurs émotions réprimées. Ils se sont montrés aimants d'abord envers eux-mêmes, puis avec leur entourage. Et à partir de ce moment, la tumeur a commencé à disparaître. Il y a aussi le docteur Kelly Turner, qui est chercheur en oncologie intégrative et diplômé de l'université de Berkeley. Elle a publié en 2014 un livre très intéressant intitulé « Rémission radicale, survivre du cancer contre toute attente », qui n'est pas encore traduit en français, et dans lequel elle raconte avoir interrogé plus de 1000 cas de rémission spontanée de cancer. Et ce qu'elle met clairement en évidence dans le livre, c'est que ces guérisons n'ont rien de miraculeux ou spontané. Ces personnes ont agi sur leur environnement émotionnel, sur leur alimentation, elles ont fait l'exercice, elles ont pris des plantes et des compléments alimentaires. Donc, comme nous l'avons vu avant, elles ont reprogrammé leurs cellules.
Elles ont créé un terrain favorable à la santé et défavorable aux cellules tumorales.
Exactement.
Oui. Est-ce que tu as d'autres exemples concrets à citer?
Ah oui, je vais citer le cas de Shannon Knight, qui est une Américaine qui a eu un cancer du sein en 2006. Alors, de stade 3 avec récidive en stade 4. Elle a été victime d'une agression violente et a même dû changer de nom avant le diagnostic. Et elle rapporte qu'elle a vécu tout ce stress dans l'isolement et qu'elle n'a rien exprimé. Et d'après elle, la clé de sa rémission est d'avoir fait la paix avec elle-même en libérant toutes les émotions négatives, la culpabilité, la honte. Et aujourd'hui, elle est en rémission. Et je citerai aussi le cas d'une dame qui a développé un cancer cervical de stade 4 métastatique après un divorce brutal et inattendu. La patiente s'est d'abord faite opérer, puis avec l'accord de son médecin, elle a pris un peu de temps pour libérer toutes les émotions toxiques liées à son divorce. Alors elle a utilisé plusieurs techniques combinées, la psychologie énergétique, le yoga, le rire, le reiki, etc., pour libérer tout le ressentiment présent dans son corps. Et deux semaines plus tard, le scanner et les analyses de sang ne retrouvaient aucune trace de cancer chez cette patiente. Ouais. Donc deux exemples qui nous encouragent à prendre en compte les émotions dans la prise en charge du cancer. Mais attention, je précise que l'EFT est un traitement complémentaire dans le cancer.
Oui, bien sûr. C'est un outil de plus, mais on a bien vu l'importance des émotions, donc pourquoi pas tenter. Alors justement, après avoir vu l'importance de cette prise en charge émotionnelle, place à la pratique. Comment utiliser l'EFT dans les cas de cancer? Est-ce que tu as une stratégie particulière?
Oui, mais avant de travailler en EFT, je pense qu'il est utile de définir des objectifs. Hein, en posant les questions suivantes, par exemple. Qu'est-ce qui vous procure de la joie? Qu'est-ce que vous aimez faire? Ou qu'est-ce qui vous fait envie? Simplement pour définir des objectifs et mettre les gens sur le chemin de leurs rêves et ainsi augmenter les émotions positives. Bon, cela peut être des choses toutes simples, hein, comme le fait d'acheter un chien, visiter un pays inconnu, se mettre à la peinture, au chant, etc.
Oui, l'idée principale, c'est de cesser de vivre pour les autres et commencer à vivre pour soi, c'est ça?
Exactement.
D'accord. Alors, effectivement, nous pouvons inviter nos auditeurs à noter quelques objectifs de ce style. Qu'est-ce qui vous fait plaisir? Qu'est-ce qui vous procure de la joie? Et ensuite, comment travailler ça avec l'EFT?
Alors, avant toute chose, il est important de préciser que l'EFT, l'efficacité de l'EFT dépend du travail personnel. Il faut s'impliquer. Une chose est claire pour moi. Dans les pathologies comme le cancer, les gens arrivent avec une longue liste de traumatismes non exprimés. C'est aussi le cas dans la clinique psychiatrique où je travaille. Et personnellement, lorsque j'ai commencé à faire la procédure de paix personnelle, je peux vous dire que j'ai rempli un cahier entier.
On peut, oui.
Donc, mon conseil numéro un, c'est de pratiquer tous les jours. Alors, à heure fixe, pour que cela devienne un automatisme. C'est un peu comme le brossage de dents. Comme on se brosse les dents trois fois par jour, eh bien, on se brosse aussi les émotions.
Oui, c'est bien de le préciser. Parce que la personne peut se dire, oh, je vais utiliser l'EFT quand je me sens stressée, quand j'ai quelque chose à faire, passer un examen, et puis tout ira bien.
Oui, exactement. La prise en charge en EFT demande un travail constant sur soi, hein, et pendant plusieurs mois. Parce que mettre en lumière toutes nos zones d'ombre demande du temps, de la patience et de la persévérance.
Oui. Effectivement. Donc le message est clair, l'EFT n'est pas une recette miracle ou une baguette magique, c'est quelque chose qui se travaille, et après avoir averti donc qu'il peut y avoir du pain sur la planche, par où peut-on commencer, Julien?
Alors au départ, je conseille de faire une liste de peurs, hein, toutes les peurs du moment présent. Alors vous prenez un papier et un crayon, et vous écrivez toutes les peurs qui vous passent par la tête, hein, et vous évaluez leur intensité de 0 à 10. Donc 0, il n'y a pas de peur, et 10, c'est une peur maximum.
Donc là, dans le cadre de la conférence, on va se concentrer sur les peurs liées à la maladie, liées au cancer.
Les peurs liées au cancer. Ouais. Voilà, ce qui vient à l'esprit immédiatement.
Mais bien sûr, vous pourrez refaire l'exercice pour n'importe quel sujet.
Ensuite, vous scannez votre corps de la tête aux pieds pour trouver l'énergie de la peur. Hein, notez s'il y a une sensation physique particulière. Comme par exemple, la sensation d'avoir un glaçon dans le ventre. et vous traitez chaque peur en EFT en commençant par la peur la plus intense. Donc quelques exemples de peurs, évidemment la peur de mourir, la peur de souffrir, d'être opéré, la peur des effets secondaires des traitements, la peur des résultats, etc.
Oui, effectivement. La peur du diagnostic, par exemple, ça peut être un traumatisme psychologique à lui tout seul. En 2013, Christine Dizan avait fait une excellente conférence à ce sujet et vous pourrez la retrouver sur le site.
Oui, oui. Et il est important de libérer toutes les émotions qui sont associées à cette scène qui est traumatisante. Hein? Consultez cette conférence et sachez que vous pourrez aussi utiliser le bonus pour le faire.
Ah, qu'est-ce que c'est ton bonus, Julien ? Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots ?
Oui. Alors le bonus, c'est un outil pratique. Donc j'ai enregistré en studio une séance d'EFT dans laquelle je vous guide pour traiter tous vos mauvais souvenirs. Donc, c'est un fichier audio MP3 qui mixe l'EFT et des techniques de méditation. Vous pourrez le mettre dans votre téléphone portable ou baladeur MP3 et l'écouter partout. Hein. Écoutez-le une fois par jour, par exemple, pour faire la procédure de paix personnelle.
Donc tu nous as fabriqué en fait la brosse à dents émotionnelle.
Exactement.
Wow, c'est génial.
Je suis dentiste aussi.
Ouais, merci, c'est un beau cadeau. Donc ça c'est le bonus que Julien contribue au pack des enregistrements du congrès 2015. Ok, alors effectivement tu parles de la procédure de paix personnelle. On va peut-être rappeler brièvement que c'est le principe de faire la liste de tous les événements qui ont pu être créer un stress, un traumatisme, petits et grands, qui vous ont dérangé au cours de votre vie. Et ensuite, on va appliquer l'EFT événement par événement de façon systématique. Et avec un peu d'assiduité, on peut ainsi déraciner chaque arbre négatif de notre forêt émotionnelle et ça va éliminer beaucoup de causes majeures à toutes sortes de problèmes émotionnels et physiques.
Exactement. Donc ensuite, il s'agit de travailler la scène choc, celle qui a pris le sujet par surprise et pour laquelle un sentiment d'impuissance a pu apparaître. Mmh. Alors pour la trouver, on peut poser la question suivante. Vous rappelez-vous d'un événement qui vous a pris par surprise, qui vous a paru insurmontable et dont vous avez peu parlé dans les 12 derniers mois.
Mmh. Donc il faut se scruter un peu parce qu'on l'a pas par, on n'en a pas parlé, on l'a peut-être évacué.
Ouais, il faut...
Enfin, pas évacué justement, plutôt enfoui.
Ouais, il faut regarder à l'intérieur. Ouais. Mmh. Donc je vous donne un exemple de scène choc. Une dame, grand-mère, apprend de la bouche de ses petites filles que leurs parents divorcent et qu'elles vont quitter la France et aller vivre dans un pays étranger. Donc la scène se passe à la sortie d'une boulangerie et prend complètement par surprise la personne, la laissant sous le choc, évidemment. Car évidemment aussi, la dame adore ses petites filles. Donc ici, la personne se sent incapable de supporter ce stress, et très important, elle n'exprimera pas ce qu'elle ressent. Donc voici le genre de scène choc à rechercher et à traiter. Alors ensuite, une fois que c'est fait, recherchez des scènes similaires dans la vie du patient, comme des répétitions. Avez-vous déjà ressenti ce genre d'émotion dans votre passé ? Y a-t-il des scènes qui pourraient y ressembler ? Et si oui, traitez chaque image ou souvenir, et vous verrez que les scènes sont cycliques, et que la recherche vous amènera souvent sur des scènes clés dans l'enfance. Alors une autre façon de récupérer des informations, des scènes à traiter, c'est de poser la question suivante. Qu'est-ce que ce cancer m'empêche de faire ? Il m'empêche de parler, de voir, de digérer, de supporter ? Alors si la réponse est de supporter, vous prenez une feuille et un stylo et vous inscrivez tout ce que vous n'arrivez pas à supporter dans votre vie, de votre naissance jusqu'à aujourd'hui. Vous écrivez un titre pour chaque événement et indiquez à droite l'intensité émotionnelle de 0 à 10. Et vous traitez un événement par jour en EFT. Nous avons vu que les personnes qui expriment peu leurs émotions ont un risque de développer un cancer plus élevé par rapport à ceux qui expriment leurs émotions. Mais pourquoi ces personnes n'expriment pas leurs émotions ? C'est un sujet à creuser, ça. Et souvent, c'est par peur. La peur d'être rejeté, d'être critiqué, moqué, de se faire gronder, qui vient souvent de l'enfance. Et il sera intéressant, là aussi, de rechercher des souvenirs clés hein, et de traiter les peurs qui ont fait naître ce comportement.
Mmh. Donc, procédure de paix personnelle, ouais, remonter, exactement. Faire le ménage. Mmh. Très bien. Alors, je crois que tu nous as réservé un exercice à pratiquer tous ensemble.
Oui.
Alors, qu'allons-nous libérer ?
Alors, il vise à libérer la croyance personnelle et collective que l'on ne peut rien faire contre le cancer.
L'impuissance.
Voilà. De passer d'un mode victime à un mode responsable. Alors, je précise tout de suite le sens du mot responsable. Hein. C'est responsable dans le sens responsibility ou capacité d'agir en anglais. Hein. Capacité d'agir. Mmh. Il ne s'agit pas de culpabiliser les patients, hein, mais au contraire de les encourager à agir.
Vous êtes responsable, ça veut dire que vous avez un pouvoir sur la
Exactement.
Situation.
Vous êtes capable
ça veut pas
d'agir.
Dire que vous êtes coupable, vous n'avez pas créé ça.
Exactement.
Très bien. Alors, occupons-nous de la croyance « je ne peux rien faire contre le cancer ». Et tous les auditeurs vont le faire avec nous, bien sûr. Donc, notez pour vous combien vous vous sentez concerné personnellement et aussi, comme tu disais, c'est aussi une croyance collective. Beaucoup de gens ont peur du cancer parce qu'on a l'impression que c'est forcément la fin. On se sent impuissant
c'est
par
ça.
Rapport à ça, effectivement.
Ouais. Ok, donc allons-y. Munissez-vous de la fiche EFT, où se trouvent les points que je vais citer. Donc,
c'est si bien les tapotes, vous commencez à bien connaître. Hein.
Par cœur.
Ok.
Donc, stimulez le point karaté. Alors, et répétez les phrases dans votre tête ou oralement. Même si je me sens impuissant face au cancer. Oui. Et que je pense que je ne peux rien faire. Je m'aime et je m'accepte comme je suis. Alors, restez sur le point karaté. Même si je me dis que le cancer est incontrôlable. Je m'accepte comme je suis. Stimulez encore le point karaté. Même si je me sens impuissant face au cancer. Je m'accepte comme je suis. Ok. Stimuler le sommet de la tête.
Le cancer est incontrôlable.
Le début des sourcils.
Je suis impuissante.
Le coin des yeux.
Je ne peux rien faire.
Sous les yeux.
Je ne peux rien faire pour l'arrêter.
Sous le nez, c'est inéluctable. Creux du menton,
je n'ai aucun contrôle.
Sous la clavicule,
personnellement, je ne peux rien faire contre le cancer.
Sous les seins, c'est bien naturel que je pense ça. Sous les bras, je permets à cette croyance d'exister dans mon corps. Stimule le pouce. Je permets à cette croyance d'exister. Index. Mais d'après les recherches en épigénétique, l'environnement contrôle les cellules. Le majeur. Or, je peux modifier mon environnement. Auriculaire. Je peux détoxiquer mon environnement émotionnel et physique. Stimuler le dos de la main sur le point de gamme. En fait, je peux faire quelque chose. Point karaté. En fait, j'ai une part de contrôle. Sommet de la tête. J'ai le pouvoir de modifier les informations qui sont présentes dans mon environnement. Début des sourcils. Je peux agir sur mon environnement. Coin des yeux. Et si j'améliorais mon environnement? Sous les yeux. J'ai ce pouvoir. Sous le nez. Je ne peux rien faire pour moi, je suis victime. Creux du menton. Et si au contraire je pouvais agir? Sous la clavicule. Et si je m'y mettais? Sous les seins. Et si je passais à l'action?
Et si je passais à l'action?
C'est sur le pouce. Et si je commençais par libérer toute la colère, le ressentiment, la peur, etc., de mon corps?
Et si je commençais par libérer toutes les colères, les ressentiments, les peurs de tout mon corps?
Index. En plus, ça tombe bien, maintenant je connais un outil pour le faire.
Ah, en plus, ça tombe bien, maintenant j'ai un outil pour le faire.
Majeur. Tiens, j'ai bien fait d'écouter le congrès virtuel EFT.
Ah, tiens, j'ai bien fait d'écouter le congrès virtuel EFT.
Auriculaire. Je peux faire quelque chose pour moi.
Je peux faire quelque chose pour moi.
Ouais. Point de gamme, au dos de la main. Alors, restez quelques secondes sur ce point. J'ai du pouvoir.
J'ai du pouvoir.
J'ai une part de contrôle.
J'ai une part de contrôle.
Les émotions désagréables ne me profitent pas.
Les émotions désagréables ne me profitent pas.
Donc, je vais les laisser aller en pratiquant l'EFT.
Donc, je vais les laisser s'en aller en pratiquant l'EFT.
Et je me réjouis d'agir pour ma santé maintenant.
Je me réjouis d'agir pour ma santé maintenant.
Ok, point karaté. Même si je pense que je ne peux rien faire contre le cancer.
Même si je pense que je ne peux rien faire contre le cancer.
La réalité, c'est que je peux modifier mon environnement.
La réalité, c'est que je peux modifier mon environnement.
J'ai ce pouvoir.
J'ai ce pouvoir.
Je peux agir.
Je peux agir.
Et je m'aime et je m'accepte comme je suis.
Et je m'aime et je m'accepte comme je suis.
Ok. Inspirez par vos deux narines, en gonflant votre abdomen. Et expirez par la bouche. Encore une fois, inspirez. Et expirez. Voilà.
Ah, que donc, c'est bon.
Ouais. C'est bon de respirer.
Ouais.
Donc, en complément du traitement conventionnel, chacun peut agir positivement sur son environnement émotionnel.
Tout à fait. Donc, action, action, action.
Action.
Effectivement, le cancer, ça peut être un choc, mais il y a des choses à faire. Ne restez pas les bras croisés. Agissez sur vous, sur nous, pour vous et pour nous tous. Alors, j'ai une question à propos de l'entourage, qui est toujours touché directement par l'annonce de la maladie, et c'est encore une difficulté à gérer sur le plan émotionnel. Et qu'est-ce que tu conseilles à ce niveau?
Ben oui, pour l'entourage, les émotions désagréables sont aussi très présentes. Hein. J'en sais quelque chose pour être passé par là. Heureusement que je connaissais l'EFT pour m'aider à gérer mes émotions. Donc, évidemment, l'entourage aussi a peur. Ou alors, il peut être en colère, hein, avoir de la rage. Mais pourquoi lui? Tout ça, c'est naturel. Hein.
Ouais,
l'injustice, ouais. Mais imaginez un patient qui se voit déverser sur lui quantité de peur, de colère par l'entourage qui lui rend visite. Si vous voulez faire un beau cadeau et aider la personne, eh ben, travaillez sur vous. Hein, libérez vos propres peurs, vos colères, votre rage. Peut-être que vous connaissez le dicton, on n'est jamais assez malade pour aider les gens malades à se rétablir. Si vous voulez aider les autres, soyez vous-même en santé. Ben, c'est très vrai. Hein. Si vous êtes en paix, eh ben, la personne le ressentira. Et toute sa biologie en profitera.
Ouais.
Je me rappelle avoir appris l'EFT à une amie qui avait une leucémie. Et sa fille avait très peur pour elle. Hein, c'est naturel. Mais c'était bien plus que la patiente. Et cela l'a perturbée. Bon. Aussi, elle lui a appris l'EFT. Et elles ont fait des séances familiales à chaque fois que la peur pointait le bout de son nez. Chacune surveillant l'état émotionnel de l'autre. Et l'environnement familial est devenu bien plus relax, et la patiente en a été la première bénéficiaire.
Oui, tout le monde en a certainement grandement bénéficié, oui. Ouais. Alors, quelle est la place de l'EFT dans la prévention du cancer, selon toi, Julien?
Ben, je rappelle l'étude qui a été publiée en 2013, qui montre que les individus qui n'expriment pas leurs émotions ont un risque de décès par cancer augmenté de 70%.
C'est énorme.
Ouais. Et de décès par infarctus du myocarde augmenté de 50%. Donc, si vous prenez l'habitude d'exprimer et de libérer vos émotions, bon, on peut penser logiquement que ce risque va diminuer. Je fais partie de l'Alliance pour l'amélioration globale de la santé et nous avons établi un protocole expérimental de prévention active du cancer. dans lequel la libération émotionnelle avec l'EFT a une place de choix. Donc oui, pour moi, la libération émotionnelle a une place dans la prévention, encore une fois, active du cancer. D'ailleurs, si les gens qui nous écoutent sont intéressés par le protocole, ils peuvent contacter l'Alliance. Et si vous êtes professionnel de la santé, bon, naturopathe, psychothérapeute, psychologue, médecin, etc., et souhaitez vous former au protocole, ben, n'hésitez pas à nous contacter aussi.
Le protocole de formation à cet accompagnement de cancer. Hein.
Exactement. Ouais. Ouais. Nous allons proposer une formation spécifique, cancer et EFT, au sein de l'Alliance, avec Jean-Michel Guret, moi-même, et une excellente équipe de professionnels spécialisés. Et l'idée, c'est de s'occuper des émotions de matière systématique dans la prise en charge du cancer.
Ouais.
Parce qu'un être humain ne se résume pas à un tas de cellules. Hein, c'est aussi une activité mentale, une activité émotionnelle, un ego, etc.
Alors oui, je suis sûr qu'il y a des personnes qui nous écoutent qui sont très intéressées par ce parcours. Et merci de le faire connaître parce que c'est vraiment important de faire bouger les choses dans ce domaine. Donc, bravo toi. Et juste avant de répondre aux questions de nos auditeurs, est-ce que tu as un mot pour conclure, Julien ?
Oui, je voudrais citer une phrase que j'ai affichée au-dessus de mon bureau. Et je la relis régulièrement lorsque mon activité mentale se perd dans les études, les statistiques, etc. Donc la voici. Donc, il y aura toujours un abîme entre l'étudiant et l'amoureux. Le premier cherche ce qui est hors de lui et accumule. Le second ne peut chercher ce qu'il a déjà trouvé, car de toute éternité, il est dit que l'amour est la connaissance. Voilà.
Mais merci beaucoup à toi, Julien, pour tout l'amour et toute la connaissance que tu as partagée.
Merci à vous pour l'invitation, merci à tout le monde.
Et on se retrouve tout de suite dans le chat pour les questions. Prépare-toi.
Tout de suite.
Il va y en avoir.
Allons-y.